Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Mercredi 8 septembre, bonne journée, bienvenue au 98.5. Avec une journée de pluie, du temps assez nuageux, averse, risque d'un orage ce matin. Les vents de 20 à 40 km/h, le maximum 22. L'humidex, vous allez voir ce matin en sortant, là, c'est quand même assez humide, autour de 27-28. La pluie devrait cesser ce soir, partiellement nuageux par la suite. Et il y a même, pardon, au cours de la nuit prochaine, un peu de brouillard avec un minimum de 16. Demain, c'est assez, disons, un cocktail diversifié avec des périodes de soleil, de nuages. Là, il y a un potentiel de pluie et même d'orage au cours de l'après-midi. Maximum autour de 23. L'humidex est à 28. Et vendredi, on finit encore la semaine avec du soleil, mais il y a un potentiel d'averse. Ça veut dire que ça demeure humide et autour de 20 degrés. Avant de plonger dans les grands titres du jour, la vaccination, le débat des chefs ce soir, on vous a fait entendre la réaction d'une mère qui a perdu son fils en raison d'un chauffard, quelqu'un qui conduisait les facultés affaiblies, drogue ou alcool. Hier, j'ai ouvert les lignes, beaucoup de témoignages extrêmement touchants. Et tout au cours de la journée, des courriels sont entrés. Et c'est là que tu mesures le nombre de personnes touchées directement par ces ivrognes de la route ou ces gens qui sont intoxiqués par des stupéfiants. Je pourrais vous en lire plusieurs extraits de courriel ce matin. Je vais vous donner un exemple. Ça s'est passé le 20 février 2012 sur la route 138 à Ville-Mercier, sur la rive sud de Montréal. Journée ensoleillée d'hiver. Ma conjointe est allée chercher notre fils de 13 ans au collège sur l'heure du dîner pour l'amener à son rendez-vous chez l'orthodontiste. Elle veut s'arrêter pour acheter de la nourriture pour notre lapin domestique. La fameuse 138 dont on a déjà parlé quand même à quelques reprises à l'émission, qui est une route dangereuse. Mais route à deux voies de circulation, mais une voie au centre qui permet au véhicule de tourner à gauche. Elle se range dans cette voie centrale, attend pour pouvoir tourner, et c'est à ce moment que l'impensable se produit. Elle se fait violemment emboutir par l'arrière par un chauffard qui circulait à haute vitesse. On a estimé la vitesse du véhicule à 160 km/h. Pompiers, policiers, ambulanciers, dépêchés sur les lieux. Il n'y a plus rien à faire. Ma femme est décédée. Elle serait morte sur le coup. Pour mon fils, il est transporté d'urgence à l'hôpital de Châteauguay, stabilisé, transporté à l'hôpital général de Montréal pour enfants. Deux fémurs de cassé, l'humérus du bras droit cassé, une commotion cérébrale sévère, dans un état critique. Pour ce qui est du conducteur, malgré le choc de l'impact, il est sorti sur ses deux jambes de son véhicule comme si de rien n'était. C'est un policier qui m'écrit ça. Il travaillait de nuit. J'ai été réveillé par ma fille de 10 ans en me disant que deux policiers voulaient me parler. Le chauffeur a été arrêté. L'enquête a déterminé qu'il était sous influence de la drogue et qu'il était en psychose. Puis imaginez l'impact. Pour ce qui est de mes enfants aujourd'hui âgés respectivement de 23 et 20 ans, ils vont très bien et font leur petit bonhomme de chemin. Mon fils est maintenant sur le marché du travail en tant que mécanicien de machinerie lourde et ma fille étudie en technique policière. J'ai l'histoire également d'une jeune femme qui m'a écrit. Elle avait 7 ans. Elle a vu sa mère mourir dans un accident d'auto. Elle a pu s'en sauver. D'autres qui ont eu des traumatismes. Je pense que c'est important, puis on va parler avec le père qui a perdu ses deux enfants, sa conjointe, son beau-père en fin de semaine. Parce que on peut faire tous les débats qu'on veut, là. Puis on a abordé plusieurs thèmes hier, comme des allocations, des indemnités qui sont payées à des gens qui provoquent les accidents. qui est complètement aberrant. Et personne n'ose trop remettre ça en question. Tu sais, c'est comme, ça a été établi, puis c'est correct. Est-ce qu'on doit indemniser le salaire de quelqu'un, sa perte de salaire, qui tue d'autres personnes parce qu'il a des facultés affaiblies, parce qu'il roule à 160 km/h, parce qu'il est sous l'effet de stupéfiants? Je vous laisse débattre de ça entre vous aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est de la vaccination. Alors, on s'en doutait, vaccination obligatoire ou encore suspension sans solde pour les travailleurs de la santé. C'était écrit dans le ciel. En pratique, le pourcentage est faible de gens non vaccinés, sauf qu'en chiffre absolu, c'est pas mal de monde. Et le message est de dire, on ne peut pas permettre à des gens qui refusent la vaccination de venir travailler puis de risquer de contaminer des patients qui sont déjà affaiblis. Dr. Weiss disait deux choses importantes hier. On observe que les gens qui sont hospitalisés à cause de la COVID actuellement sont des gens plus jeunes et non vaccinés. Et les gens qui sont vaccinés et qui sont quand même malades à l'hôpital sont des gens qui ont des facteurs de risque importants. Conclusion, le vaccin marche. Mais il y a encore des gens qui vont occuper des lits. Et plus tu es jeune, plus tu restes longtemps à l'hôpital. Les gens plus âgés mourraient. Les gens plus jeunes vivent, mais occupent des lits. Et encore là, il y a toujours ce lien entre les patients COVID qui, par la force des choses, tassent des patients non COVID. Et hier, on le voyait très bien. C'est pas depuis le début de la pandémie là qu'on a des problèmes de main-d'œuvre, qu'on manque de personnel dans le réseau de la santé. J'ai interviewé à peu près tous les ministres de la santé qui sont passés au Québec depuis 30 ans. C'est toujours la même cassette qui revient là sur les changements à venir, puis la mise à la retraite des gens, puis le rappel du personnel à la retraite. Les lits sont là. Les patients sont là. Les médecins sont là, mais on n'a pas le personnel, parce qu'après une opération, tu as des patients qui sont gardés, soins intensifs. Alors, on a eu des opérations de délestage. Est-ce que ça veut dire que si les cas continuent d'augmenter, je parle de cas à l'hôpital, on va se retrouver avec, encore une fois, du délestage, puis des patients qu'on ne pourra pas traiter dans un délai qui est acceptable. C'est quand même ça l'enjeu. Là, il y a plein de gens qui m'écrivent en disant « Ouais, mais là, si je ne veux pas me faire vacciner, ce qu'on comprend, c'est qu'ils vont peut-être vous assigner ailleurs, mais ultimement, ça peut aller à une suspension sans solde. Quel sera l'impact sur le réseau? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens, il manque quoi, 2000 personnes actuellement? On a déjà vu ça à 10-12 000. Est-ce que ça veut dire encore plus de temps supplémentaire obligatoire pour des infirmières? Est-ce que ça veut dire encore des délais pour ce qui est des chirurgies, point d'interrogation. Mais regardez ce qui se passe aux États-Unis, des gens qui nous citent là, souvent le modèle de la Floride comme étant une référence exceptionnelle, ben, c'est une hausse des cas. Et cette vague qui frappe les États-Unis est très forte. Et dans des États où le niveau de vaccination est faible, parce qu'on va se le dire, au Québec, c'est important, là, 80% des gens ont les deux doses, à peu près, là. C'est énorme quand vous regardez le niveau de vaccination ailleurs dans le monde. Mais ce 20%-là est problématique. Puis c'est frustrant pour des gens qui sont vaccinés de dire ils vont aller occuper des lits puis ils vont se faire soigner parce qu'ils s'entêtent. Je comprends que c'est un choix, c'est la liberté. Il n'y a personne qui va te rentrer une aiguille de force dans le bras. Mais quand tu travailles dans le réseau de la santé, me semble-t-il, puis tu as beau dire que tu as des équipements de protection, c'est pas suffisant. Et pour ce qui est du confinement, c'est pas dans les plans du gouvernement. Et il faudrait pas que ça le soit non plus. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de vivre ça. On est à 80% vaccinés. Puis le passeport, je sais que ça énerve bien du monde, mais le passeport permet de maintenir des activités non essentielles, mais très importantes, comme le gym, comme la restauration. Rappelez-vous, pendant le premier confinement, puis même pendant le deuxième, des gens qui appelaient parce qu'ils disaient « j'ai besoin de m'entraîner, ça fait partie de ma routine, puis c'est plus que, c'est pas un caprice, j'ai besoin de ça. Et je me fais vacciner. Tu veux pas? Parfait. Tu veux pas aller au resto? T'as le droit. Personne te force. Tu vas pas au cinéma, tu vas pas au gym. OK. Mais il y a personne qui veut qu'on se retrouve alors qu'on commence dans certains pays à procéder encore là à des mesures de confinement. Donc, ça veut dire que septembre, octobre, ce sont des périodes quand même importantes. Et l'autre question, est-ce qu'on va élargir cette vaccination obligatoire aux écoles? Parce que, je vais finir là-dessus, les écoles, puis je parle pas juste des écoles primaires et secondaires, là. Il y a beaucoup de profs à l'université qui sont préoccupés. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui sont préoccupés parce qu'on n'exige pas de preuve vaccinale, alors que dans d'autres universités, on le fait. On trouve qu'au Québec, c'est bien long déployer les tests rapides. Puis je pourrais vous reparler de la question de la ventilation, puis de la circulation de l'air, puis de la qualité de l'air dans les classes. C'est sûr, quand vous regardez aux États-Unis, le nombre d'enfants touchés a augmenté en flèche. Des enfants pour qui la vaccination n'est pas autorisée. Ils ont évidemment beaucoup moins de séquelles, ça frappe, mais il y a des enfants puis des ados pour qui les symptômes s'étirent quand même sur une certaine période. Tout ça pour vous dire que c'est pas banal, mais ça peut devenir dérangeant puis ça peut devenir lourd. Alors ça, c'est notre dossier COVID ce matin. Bon, un dernier volet sur la santé. Le Journal de Montréal ramène ce matin une pratique qui est connue depuis longtemps, qui amène des médecins spécialistes à se désaffilier du système public pour une courte période de temps pour aller pratiquer dans le privé, puis après ça, ils reviennent à l'hôpital. Pourquoi ils font ça? D'abord, en termes de nombre, selon le Journal de Montréal, 70 médecins ont quitté le régime de façon temporaire pour aller au privé et revenir vers le public depuis le début de la pandémie. Pourquoi est-ce qu'ils reviennent? Ben d'abord parce qu'ils ont des privilèges dans les hôpitaux, puis ils veulent opérer. Puis pourquoi ils quittent? C'est parce que souvent, il y a des médecins qui vont pas au bout de leur capacité opératoire. Ils voudraient opérer, mais ils peuvent pas. Puis vous avez des médecins qui sont reconnus pour leur expertise puis la qualité des actes qu'ils posent. Fait que l'hôpital n'a pas intérêt à bloquer ça en disant « Écoute, vas-y, mais tu reviens. » Donc, la Régie de l'assurance maladie dit qu'il y a 71 médecins spécialistes qui ont quitté au moins une fois avant de revenir. Donc, des radiologistes, des orthopédistes, il y en a beaucoup. Et ça veut dire qu'il y a des patients qui vont payer 20 000, 25 000 et plus là, pour certains types de chirurgie. Puis il y en a là, qui font ça tous les mois. Parce que tu peux pas être aux deux. T'es au public ou privé. Il y a quelques exceptions, là, mais pas tant que ça. Alors, vous faites quoi si vous êtes médecin puis que vous avez la possibilité d'opérer des patients plutôt que de vous tourner les pouces dans le système public? Est-ce qu'on devrait le permettre? Est-ce qu'on devrait dire « Tu veux sortir? Ben tu sors. » Ou « Tu sors pour une plus longue période. » La question mérite d'être posée. Bon, débat des chefs ce soir. Beaucoup d'enjeux, les questions environnementales, question des armes à feu. On a vu les 5 maires et mairesses du Québec, des villes les plus importantes, demander aux partis politiques de se brancher. Il y a Jack Meeting également qui a dit à ses vis-à-vis des autres partis, on peut-tu arrêter de niaiser puis de dire le vaccin est bon, le vaccin est efficace puis qu'on devrait se faire vacciner plutôt que d'avoir des discussions. Il y a Maxime Bernier qui est tout seul dans son coin. Ce qui m'amène à vous parler des candidats gênants et embarrassants. Dans chaque campagne électorale, là, il y a des candidats dont le passé revient, ou encore des propos tenus. Si on regarde Montréal, bon, il y a eu Will Prosper, son départ mystérieux de la GRC, il est venu s'expliquer l'autre jour, pour le moins étonnant de ne pas te souvenir de l'échange téléphonique que tu as avec un ami dont tu es en train de vérifier dans la banque de données de la police si son nom est là, puis pourquoi il est là. tu surveilles ça, tu y parles en même temps, puis tu dis que tu transmets pas d'informations, c'est un peu gênant, c'est un peu encombrant pour la mairesse. Mais elle a décidé de le garder. Denis Coderre, hier, a largué son candidat vedette, Joe Ortona, qui fait partie de la commission scolaire English Montreal. Bon, qui s'oppose à la loi sur la laïcité, c'est une chose, mais qui nie la nation québécoise, puis qui s'en prend à la réforme de la loi 101. Pour ensuite faire un peu de rétro-pédalage, puis dire, ben j'aurais aimé ça être candidat pareil. On l'a échappé sur la question de la nation québécoise, mais tu peux pas être candidat à la mairie de Montréal pour avoir un candidat qui t'explique que le français, il est pas tout à fait à l'aise avec la réforme, puis que deux, ça existe pas, la nation québécoise, alors que c'est reconnu. Donc, tu t'en débarrasses. Et t'avais également Aline Nestor, qui lui, t'es pas candidat, mais conseiller, arrive des accusations criminelles dans le cadre de violences conjugales, paf, lui aussi s'en va. Et là, vous avez, puis j'ai hésité, je l'ai dit tantôt, le candidat Barnabé dans Matane. Il y a des bébés rares dans ce parti-là. Tu sais, qui va aller chercher quoi? 4, 5, 6 % des voix. Puis probablement que Bernier trouve que c'est bien correct parce que ça fait partie de la liberté d'expression. Mais il y a des gens hier qui ont ramené une série de messages. Tu lis ça, le gars a 56 ans. Il a toujours été célibataire. Et tous les propos là qui sont retrouvés, novembre 2019, septembre 2019, 1er septembre 2018, à peu près dans les mêmes eaux. Je cite un de ses messages. Et juste pour être encore plus clair, là, lui, il dit « J'ai pas l'intention de renier mes paroles. J'ai offert un placement à risque à moyen terme à une demoiselle. Je lui ai offert du sexe avec le risque qu'elle soit enceinte et que je récolte mon investissement dans 9 mois. Elle a préféré un dépôt direct. Elle a tout avalé. » La grosse lasse. Puis là, je pourrais vous donner des exemples où il dit qu'il voit des femmes tout nues partout. Autre exemple. Lui, des femmes en politique, ça le dérange. Et des minorités le dérangent également. Les hommes blancs n'ont pas accès à la plupart des programmes gouvernementaux et sont même exclus des emplois pour privilégier les femmes, les immigrants, couleur indien, handicapés. C'est dans la loi du travail. Quand Hélène David dit que les femmes poursuivent la lutte, qu'on baissera pas les bras, il ajoute « rien pour les hommes ». Égalité qu'elle disait, mais à sens unique. Bientôt, on sera obligé d'élire des femmes. Si c'est ça la démocratie, mieux vaut la dictature. OK, ça c'est le candidat de Maxime Bernier, puis il regrette pas une ligne. Parfait. On comprend qu'ils ne seront pas élus. Puis que, mais tu sais, c'est gênant. Peut-être pas pour Bernier, mais tu sais, tu te dis, excuse-moi, là, tu lis tout ça, puis tu dis, c'est un incel. Tu comprends? Un frustré face aux femmes, puis il se défoule sur son nom. Peut-être pas ça, mais tu sais, 56 ans, jamais eu de femme trop tôt dans sa vie, de ce qu'on comprend, en tout cas. Célibataire, c'est lui qui emploie l'expression. Ensuite de ça, ce matin, le dossier des livres détruit. Dossier de Thomas Gerbet qui a été rendu public hier. Donc, on a détruit des livres à partir d'une grille d'analyse. Si t'es pas autochtone, tu peux pas écrire sur les autochtones. D'employer des mots comme indien dérange. D'employer des mots que tu places dans la bouche de raciste dans un contexte historique d'un roman qui se passe dans les années 20. Ça aussi, ça marche pas, puis la liste est très longue. Là, Radio-Canada, M. Gerbet revient et nous explique que la personne qui est la gardienne du savoir, celle là, qui détermine là, quel livre on met à l'index, puis qu'on fait brûler dans le petit feu de camp, puis on prend les cendres pour ensuite planter un arbre. Eh bien, cette personne-là n'est pas une autochtone. Et elle aurait raconter des petits mensonges ou des demi-vérités. Elle est présidente de la commission autochtone du Parti libéral du Canada. Elle s'appelle Suzy Keyes. et elle n'a pas de statut d'Indien en vertu de la loi. Elle n'est pas dans les registres des conseils de bande des Abénakis. Et on ne lui trouve aucun ancêtre autochtone, puis on est remonté jusqu'en 1780. Bref, elle est qui, elle, pour prendre ce type de décision? Et on comprend, là, c'est dans le Parti libéral, et c'est elle qui a, disons, cautionné toute cette opération. Et je rappelle, c'est pas parce qu'on fait disparaître des livres, puis les faire brûler, tu sais, il y a encore là tout un symbole de censure, de mise à l'index, que des livres quittent les tablettes, c'est une chose. Mais qu'on décide, là, cette espèce de comité où on dit, OK, ça passe. Puis avec des critères, entendons-nous, là. Pas des livres écrits par des racistes, pas des livres écrits par des gens qui n'ont pas fait des recherches puis qui n'ont pas documenté leurs propos. Non, non. Parce que le mot dérange, alors qu'une mise en garde, et j'ai jamais cru que de faire disparaître des livres d'une époque te garantissait, disons, une ouverture d'esprit des gens. Prenez un livre de Michel Jean, puis faites-le lire à l'école, puis mettez ça en parallèle avec ce qui s'est déjà écrit. Me semble-t-il, mais ça a l'air qu'on peut pas trop dire ça. On va aussi parler un peu plus tard ce matin de la sécurité de cette campagne électorale. M. Trudeau qui s'est fait lancer des roches. Et également, juste vous dire pour les gens qui suivent l'immobilier, il semble que le marché se refroidit un peu, ce qui est en soi une très bonne nouvelle. Il est 6h25 minutes. Quand je dis le marché se refroidit, ça veut dire que la folie est moins forte un peu, là, tu sais, d'acheter sur le capot de la voiture puis multiplier les offres. Ouais, ça a l'air que ça se calme un peu. Et Pierre-Yves le disait.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Quatre personnes sont décédées dans un terrible accident. Le responsable de l'accident, Éric Légaré, 43 ans, récidiviste d'alcool, a donc détruit une famille. Hier, beaucoup d'entre vous avaient réagi en partageant, lors de la tribune téléphonique, par courriel, des expériences similaires. Un homme m'a écrit, perdu sa femme. Son fils a été grièvement blessé. Une autre, qui avait 7 ans à l'époque, a vu sa mère mourir dans un accident, et je parle dans tous ces cas-là, d'accidents causés par des conducteurs avec faculté affaiblie, par l'alcool et par la drogue. Jean-Dominique Lemieux, lui donc, a perdu sa conjointe Shelley, sa fille Emma, le garçon de sa conjointe Jackson et son beau-père James dans cet accident. Il est avec nous ce matin. Monsieur Lemieux, bonjour.
Bonjour.
D'abord, nos sincères condoléances, et je sais que les pensées des auditeurs et des auditrices sont avec vous ce matin. Vous êtes dans quel, je dirais, dans quel état psychologique? Êtes-vous en colère? Êtes-vous enragé? Êtes-vous abattu? Comment vous allez d'abord?
C'est assez difficile à décrire l'état dans lequel je me sens, dans lequel je suis. Là. C'est un petit peu surréel, là, qu'est-ce qui se passe présentement. Là. Donc, j'ai l'impression, je surfe un petit peu sur une vague d'énergie, puis d'amour, puis de support de la ville de Québec, et puis c'est en train de s'étaler à tout le Québec. Puis j'ai reçu des milliers de messages de support, de soutien, de même partout au Canada et à l'extérieur du Canada dans les derniers jours. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé à regarder en avant. Puis, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, c'est certain.
Vous avez partagé ces moments-là aussi avec le public par les réseaux mm-hmm. sociaux. Je pense entre autres les moments avec votre fille, le fait que votre fille, comme vous l'avez dit, permet à d'autres enfants de vivre grâce au don d'organes. C'était important pour vous de faire cette démarche-là?
Ouais, j'étais pas quelqu'un qui mettait grand chose sur les réseaux sociaux, là. Historiquement, mon dernier post remontait peut-être 7 ans, là. Mais je sais pas, j'avais le besoin de m'exprimer, puis ça, je regrette pas de l'avoir fait, ça m'a aidé énormément. Puis
qu'est-ce que vous aviez besoin de dire?
Ben, si je peux aider à ce que ça se reproduise plus, ou ça, c'est simplement ça le message. On peut rien faire pour ce qui s'est passé avec ma famille. Je peux rien faire, personne ne peut rien faire. Mais on peut faire quelque chose pour que ça arrive plus à d'autres familles.
C'est en vous écoutant et en lisant ce que des auditeurs m'écrivent qu'on réalise c'est arrivé à beaucoup, beaucoup trop, mais beaucoup de familles au Québec.
Oui.
Vous souhaitez quoi? Des lois plus sévères, des contrôles plus sévères, des peines plus sévères?
Ben, c'est peut-être les lois, les peines, je pense que c'est du réactif. Pour moi, ce qui est important, c'est peut-être un changement de perspective ou de culture par rapport à l'alcool. Tu sais, pourquoi on vise presque d'être en dessous de 0.08, il faudrait peut-être viser de zéro plutôt. On vise zéro, puis on fait du mieux qu'on peut pour arriver le plus proche possible ou rester à zéro. C'est comme aller à l'école. Est-ce qu'on vise 60 ou on vise 100?
Si j'ai bien compris le contexte, votre conjointe revenait quoi d'une activité impliquant son fils?
Donc, mon épouse est partie chercher les enfants à l'école.
OK.
Simplement. Puis en revenant de la pratique de football de Jackson, puis de l'école de ma fille, elle s'est fait frapper de plein fouet par un chauffeur.
Il était quelle heure quand c'est arrivé?
5h30 après-midi.
Et donc, il était en état d'ébriété, puis c'est un récidiviste d'alcool au volant.
Exact.
Quand vous avez appris la nouvelle, ça a été quoi votre réaction? Comment vous l'avez su d'abord, ce qui s'est passé?
J'ai été avec ma belle-mère. Ils étaient de passage à Québec, qui viennent du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Je suis en train de me faire à souper. Puis, elle s'est un peu inquiétée parce qu'il devait déjà être rendu à la maison. Il ramassait, il faisait une petite commission, puis il s'en venait à la maison. Normalement, il aurait dû arriver avant moi. Et puis, elle s'est un peu inquiétée. Elle a dit, bon, écoute, je vais les rappeler. Elle a appelé son mari, puis c'est la SQ qui a répondu. Donc, et puis là, c'est le gens de la SQ ne parlaient pas nécessairement en anglais. Puis était sous le choc, là, probablement, en plus. Là. Donc, j'ai pris l'appareil. Puis c'est là que j'ai... L'agent de la SQ m'a dit, ben, rendez-vous à l'enfant Jésus. Il y a une accident très grave. Il y a des morts.
Comment on se rend là quand on sait qu'il y a des morts, puis que ce sont... Vous n'aviez pas les détails à ce moment-là?
Non, j'avais aucune idée c'était qui. J'avais aucune idée c'était qui. Ils m'ont demandé c'était qui. Jackson Fortin par rapport à moi. Donc j'ai dit, ben c'est... Je suis son beau-père. Il est dans ma vie depuis qu'il y a deux ans. Ça fait 12 ans que je suis son beau-père. Donc, première réaction, j'ai appelé le père de Jackson. J'ai dit, Daniel, il faut aller à l'enfant juste maintenant. Il y a un accident grave. Je ne sais pas si j'ai aucun détail, mais il faut se rendre là.
Et votre conjointe est décédée pratiquement sur le coup. Vos deux enfants avaient des blessures graves. Et ils sont décédés quoi, vendredi, au cours de la fin de semaine?
Mm-hmm, exact. Ouais. Les deux enfants étaient dans le coma. Puis c'est ça qui était frappant. En fait, les quatre sont encore tous beaux. Les enfants sont beaux. Ma fille avait l'air plus maganée à jouer avec son chien qu'après l'accident. Aucune graphine, pas de bleu, pas rien. Là. Je m'attendais un peu au pire là, en allant à la traumatologie à l'enfant Jésus. Là. On peut voir de tous les cas. Là. Mais la première fois que quand je suis arrivé dans la salle en traumatologie où elle était observée, j'en revenais pas. Je pensais que ça allait être un miracle, peut-être. On garde espoir jusqu'au dernier moment. Parce que quand j'ai vu les photos de l'auto sur mon téléphone avant de voir ma fille, j'ai dit oh là là. S'ils survivent à cet impact-là, c'est un miracle. Puis en voyant ma fille en traumato, je me dis peut-être que c'est un miracle ou peut-être que, je sais pas, elle avait aucune marque externe. Donc, c'est ça. Ça a été perçu. On a su quelques minutes plus tard qu'il n'y avait plus d'activité cérébrale. Donc, c'était la fin pour les deux enfants imminente. C'est juste leur corps qui ont gardé leur corps en vie pour le don d'organes.
vous avez rendu hommage, salué le travail des gens qui sont intervenus de l'hôpital. Tout le personnel qui, dites-vous, a fait un travail rigoureux, professionnel, avec beaucoup de compassion.
Oui, absolument. Non, les gens du CHU de Québec, c'est des héros de la société. Là. On critique le système de santé. On peu importe. Moi, j'étais servi par des gens dévoués, passionnés. Le cœur gros comme celui de ma fille. Puis j'ai eu une expérience vraiment particulière et incroyable avec des gens incroyables tout le long du parcours. Absolument.
Vous allez vivre votre deuil, puis il y aura un procès à travers tout ça. Avez-vous l'intention d'y assister? Quels sont vos sentiments face à celui qui a causé, je dirais, ça, en fait, qui a brisé votre vie puis brisé votre famille?
Ouais, ben je sais pas trop comment je vais, c'est pas clair encore comment je vais l'approcher pour l'instant. Je dois composer un petit peu avec la belle famille, là, qu'eux aussi ont des souhaits par rapport à ça, d'y assister. Personnellement, moi, je sais pas, j'ai pas encore fait ma tête là, par rapport à si je vais faire quoi par rapport au procès, à quel point je vais être présent ou non, là, c'est encore trop frais.
Puis est-ce que je comprends, là, puis vous me direz si c'est pas ça, là, que vous avez pas de la haine à l'endroit de l'accusé, parce que quoi, la haine, ça va vous détruire plus qu'autre chose, ça aide pas?
Ben, j'aime mieux mettre mon énergie à sauver des vies, plus de vies, en prévention qu'en réaction ou en punition envers cet individu-là ou d'autres, comme il y en a plein d'autres. Donc, si on peut faire un travailler ensemble pour prévenir davantage, je pense que c'est de l'énergie mieux investie que punir davantage changer les doigts.
Ouais. Je pense que ce que vous avez fait ce matin, en tout cas, ça va aider beaucoup de gens de prendre conscience, parce que c'est épouvantable ce qui vous est arrivé. On veut pas que ça arrive à personne, mais le fait de le partager avec nous ce matin, puis de la façon dont vous le faites, je me permets de vous rendre hommage, de vous dire de prendre soin de vous, et on pense à vous. Merci. M. Lemieux.
Merci, M. Lemieux. Au revoir.
Jean-Dominique Lemieux, il a perdu sa conjointe, sa fille Emma, le garçon de sa conjointe Jackson et son beau-père dans un accident qui aurait jamais dû arriver. Tu reviens de l'école, d'une course à faire, un récidiviste de l'alcool passe et tue 4 personnes. Ce que M. Lemieux nous dit, prenons du temps pour être conscient de ça. Et je sais là, par vos courriels que c'est arrivé à tellement de familles. Là. Ma boîte s'est remplie hier, là. Je pourrais faire une liste d'histoires épouvantables. Fait pas toujours la manchette. Mais c'est un rappel important dans des circonstances affreuses. Mais je pense que c'était indiqué de le faire. Puis monsieur Lemieux a accepté notre invitation.
L'essentiel de Paul Arcand.
Si on résume un peu la situation ce matin suite aux propos du premier ministre Legault, d'abord, il n'y a pas de confinement en vue. La vaccination, on a atteint des niveaux quand même majeurs au Québec, 80% et plus pour ce qui est de la première dose. Mais il reste quoi? 13% de gens qui refusent la vaccination pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est de la paresse. D'autres fois, c'est par conviction. Et hier, Québec a confirmé que tous les employés du réseau de la santé devront être vaccinés, avoir les 2 doses, sans quoi ils seront suspendus sans solde. L'échéance est le 15 octobre, ce qui veut dire en pratique que vous devez vous faire vacciner, si c'est pas fait, dans les prochains jours pour avoir donc les 2 doses pleines. Le Dr Weiss disait hier matin, il y a 2 catégories de patients COVID actuellement dans le réseau. On a des jeunes non vaccinés et qui occupent des lits. Je parle toujours des gens hospitalisés, là. Des lits pendant de longues périodes de temps. Puis on a des gens qui sont déjà et correctement vaccinés, mais qui ont des antécédents médicaux ou des problèmes de santé qui les rendent plus vulnérables. Tout ça nous amène à regarder donc l'état du réseau de la santé puis de cette politique de vaccination. Est-ce que y a bien des gens qui vont aller vers le congé sans solde plutôt que de se faire vacciner? Je parle de tout ça avec Dr Amélie Boisclair, qui est intensiviste à l'hôpital Pierre-Legardeur. Dr Boisclair, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, quand on va mettre en vigueur là, le 15 octobre la mesure, avez-vous l'impression que ça va toucher directement les équipes qui travaillent avec vous, qui va manquer de personnel, qu'autrement dit, on va se ramasser dans une situation difficile?
Bien, on est déjà dans une situation difficile, mais c'est pas l'obligation de la vaccination qui va créer ça. Parce que dans mon équipe, dès que le vaccin est sorti, on s'est tous précipités pour l'avoir. Les équipes médicales, les soignants directs avec les patients sont en grande majorité déjà toutes complètement vaccinées.
Donc, ce ne sera pas un enjeu pour vous, terrain?
Non.
C'est quoi l'enjeu?
J'ai pas l'impression.
C'est quoi l'enjeu terrain pour vous?
L'enjeu terrain, ben il faut que je garde, mon équipe. Vous avez vu, vous avez parlé avec Amy Coutu, qui est une infirmière qui travaillait avec moi, dont je salue l'entrevue, là, qui a quitté. Mais Amy, c'est plusieurs infirmières là, qui ont le même discours. Puis c'est pas un discours qui date de quelques mois, quelques semaines. Ça fait plusieurs années hein, pour celles qui ont le plus d'expérience, qui m'en parlent. Mais là, toute la pandémie a exacerbé ça avec leur fatigue, le manque de vacances. Puis c'est pas un enjeu de vaccination. Ils se sont fait vacciner. Là. Ils veulent pouvoir offrir des soins de qualité à leurs patients. Tout tourne autour de ça.
Et vous me corrigerez, là, mais à chaque fois que je parle avec des infirmières, que je lis des courriels d'infirmières, puis on peut parler des autres employés, mais parlons des infirmières ce matin, là. C'est pas la paye qui est souvent l'enjeu, là. Ça fait partie là, des conditions, mais c'est pas en augmentant les salaires qu'on va régler le problème.
Ben, je suis d'accord avec vous. T'sais, c'est sûr que moi, je suis pas infirmière, je fais pas partie, mais je parle beaucoup avec mon équipe. Hein. On est une petite famille, puis j'essaie vraiment de comprendre. T'sais, des fois, on se dit, ben, peut-être que je peux avoir ma... Comment je peux aider, là, tu sais, comme médecin? Puis le salaire ne revient jamais sur les discussions, là. C'est jamais, en fait.
C'est quoi le problème? C'est le temps supplémentaire obligatoire, c'est l'absence de congés. Moi, je vois des témoignages sur les réseaux sociaux hier. Mme Coutu en a fait un, mais il y en a d'autres, là, qui décident de partir, puis d'autres qui partent qui font pas de bruit non plus, là.
Ben, exactement. Mais il y a beaucoup d'enjeux, hein. Souvent, c'est ben justement les horaires, c'est un gros problème. Moi, ce que j'ai noté, c'est que parce que c'est sûr qu'ils ont un système qui est complètement différent du mien. Fait qu'à chaque fois, je m'informe pour savoir comment ça marche. Le nombre de fois, j'ai dit ben voyons donc. Puis, tu sais, en me disant, ben, je peux pas croire que ça fonctionne comme ça, mais oui, il y a des horaires qui sont changés à la dernière minute. Le TSO qui sont imposés, mais qui revient sur une base très régulière. Puis fait qu'ils sont jamais capables de planifier leur vie personnelle, leur vie familiale. La fatigue s'accumule, tu sais. Puis souvent, moi, ce que je vois, c'est qu'ils s'inquiètent pour les ratios d'infirmières pour leurs patients. Les patients sont aux soins intensifs, on a les patients les plus malades de l'hôpital. Mais les patients, ces temps-ci, sont encore plus malades qu'ils étaient. Fait que on peut pas dire qu'une infirmière est jumelée avec un patient plus lourd et un patient plus léger pour rééquilibrer la tâche. Là. Fait que, tu sais, là, ils s'inquiètent beaucoup que les ratios, ils veulent offrir des soins de qualité. Ils sont submergés de paperasses qu'ils doivent remplir ou des affaires qui, selon moi, ne devraient pas être faites par une infirmière parce que ça occupe de leur temps de façon inappropriée. Surtout ces temps-ci. Mais c'est vraiment ce qui les préoccupe, c'est leur capacité d'offrir des soins de qualité. La priorité, c'est toujours le patient. Puis, ils essayent de proposer des solutions qui sont applicables au niveau local. Mais de ce que je comprends, là, c'est qu'il y a une rigidité dans le système qui fait que une solution doit être applicable à peu près partout. Puis ça, ben, ça n'arrive pas.
Autrement dit, si ça marche dans votre hôpital, faudrait que ça marche partout dans le territoire du CIS, sinon on le fait pas.
Ben, c'est ma compréhension. Okay. Après, je dirais que ça confirmait avec le gestionnaire, là, mais tu sais, on a des milieux qui sont tellement différents, même en deux hôpitaux, ça peut être soit la culture de l'hôpital, soit la clientèle qui est visée. Fait que c'est sûr, tu sais, puis les équipes aussi, peut-être que ce qui fonctionne bien dans mon équipe n'est pas approprié pour l'équipe fait les soins intensifs d'un autre hôpital, puis c'est correct. Mais la capacité d'avoir une décision sur comment je fonctionne avec mon équipe, comment on fonctionne en tant que famille, c'est ce qui nous unit. C'est ce qui fait une grosse différence sur ta perception aussi de la charge de travail, puis de la reconnaissance qu'on donne à ta voix comme expert sur le terrain pour dire voici ce dont j'ai besoin pour bien faire mon travail. C'est là que ça bloque.
On voit que les infirmières qui s'expriment sur les réseaux sociaux signent leur message avec leur nom et leur numéro matricule aussi.
Oui, ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que moi, tu sais, j'ai commencé ma médecine, disons, en 2003, mais ça fait 6 ans là, que j'ai complété mes études puis que je travaille comme patron. Puis au début, j'ai jamais, je les ai entendus utiliser leur numéro de matricule. Jamais. Tu sais, c'était plus convivial, c'était par leur nom. Puis là, quand ils m'ont dit, dans les communications, c'est comme ça. Puis on est des numéros, on se sent comme des numéros. Là, j'étais comme, ouf, on a un gros problème. Parce que là, qu'est-ce qui nous tient ensemble? C'est l'impression d'être unis pour combattre une pandémie. Puis pour ça, je travaille avec Amy. Je travaille avec Nancy, Brigitte, Mélanie. Je travaille pas avec des numéros de matricule. C'est cette force-là ensemble qui fait qu'on offre des soins à nos patients puis qu'ils s'en sortent. On a besoin de cette cohésion-là. Fait que là, quand je les ai vus commencer à utiliser leur numéro de matricule, tu sais, je me dis, oh là là, il y a quelqu'un qui doit se pencher sur ce problème-là. Puis non, c'est pas une question de salaire, c'est une question de qualité des soins offerts. C'est des professionnels. Tu sais, c'est professionnel, ils veulent bien travailler. Puis moi, c'est ce que je ressens. Tu sais, je passe beaucoup de temps à parler avec elles parce que ça me préoccupe beaucoup. Parce qu'en même temps, moi, comme médecin des soins intensifs, qu'est-ce que vous voulez que je fasse si j'ai pas une équipe qualifiée autour de moi?
C'est sûr. Merci d'avoir pris ce temps-là pour nous ce matin. Bonne journée, Dr. Boisclair.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Dr. Amélie Boisclair est intensiviste à l'hôpital Pierre Legardeur.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Bon, beaucoup de gens m'ont écrit qui travaillent dans le réseau de la santé, qui disent, est-ce qu'on a bien compris, là? 15 octobre, on est double vacciné. Sinon, c'est un cas de suspension sans solde pour les gens qui vont refuser de se soumettre à la vaccination et qui n'auront pas la preuve vaccinale. Maître Claude Gravel, qui est spécialisé en droit du travail, est avec nous. Maître Gravel, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, une fois que ce décret-là tombe, que les gens ont quelques jours pour respecter les délais puis se faire vacciner, là, est-ce qu'il y a des recours? On va-tu avoir une pluie de griefs de gens qui vont dire, c'est que les syndicats vont monter aux barricades puis vont défendre leurs membres?
En peu de mots, là, on peut penser qu'il va y avoir effectivement une série de recours suite à l'adoption du décret. Pour les personnes qui vont faire l'objet de suspensions sans solde, on peut imaginer aisément qu'il va y avoir également des griefs qui vont être logés pour contester les mesures qui vont être imposées. Mais dans tous les cas, le système de justice étant ce qu'il est, la réponse au recours entrepris va certainement prendre quelques semaines, voire quelques mois, avant de pouvoir clarifier la situation, puis déterminer les droits des parties.
Selon vous, là, avec votre expérience, est-ce que les syndicats ont une opportunité réelle ou ils font ça pour, je dirais, par obligation, défendre leurs membres? Autrement dit, ils ont une chance de gagner?
En fait, comme je le mentionnais dans une entrevue antérieure, chaque cas va être un cas d'espèce. Et naturellement, quand vous regardez, M. Arcand, la mise à jour de l'avis de la vaccination obligatoire qui a été émise par le comité d'éthique de la santé publique, on voit qu'il y a excessivement de nuances dans leurs propos. Alors, pour certains groupes, la vaccination obligatoire pourrait s'avérer une mesure adéquate, mais pour d'autres groupes, les syndicats pourraient avoir gain de cause en étant en mesure de faire la démonstration que cette mesure n'était pas nécessaire, et j'insiste sur le mot nécessaire, considérant l'ensemble des circonstances.
Est-ce que je comprends qu'il faut qu'il y ait comme une gradation? Autrement dit, t'es pas double vacciné, je commence par, 3 jours de suspension, avant d'arriver là, à la suspension sans solde?
À l'heure actuelle, il y a un certain nombre de choses à considérer. Dans l'avis auquel je faisais référence tout à l'heure, les experts disent que la mesure doit être évaluée avec le temps. Donc, la première chose qu'on peut penser, c'est que le gouvernement annonce le 15 octobre, mais entre aujourd'hui et le 15 octobre, cette mesure-là annoncée pourrait peut-être faire l'objet d'une révision considérant l'évolution du variant Delta là, qui fait craindre au pire. Alors, on comprend que le gouvernement met une date dans le temps, mais à la lecture de l'avis, on comprend que cette date-là pourrait être reportée ou modulée différemment en fonction de l'évolution des données scientifiques et de ce qui se passe sur le terrain.
Attendez, je veux juste bien comprendre. Êtes-vous en train de me dire que le gouvernement s'est donné une marge de manœuvre, que ça pourrait être le 25 octobre, le 30 octobre plutôt que le 15?
Ben, ce que je suis en train de vous dire, lorsqu'on lit l'avis en question, on comprend que effectivement, le gouvernement pourrait envisager, compte tenu de l'évolution de la situation, décider de reporter la date du 15. Et là, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est une variable avec laquelle il peut effectivement travailler.
S'il s'aperçoit, mettons aussi que peut-être il y a bien du monde qui vont pas se faire pour vacciner et donc pour pas se ramasser avec une pénurie de main-d'œuvre encore plus grave.
Bien, d'une part, mais ce que l'avis mentionne également, c'est que, bon, on commence à voir les effets du passeport vaccinal. Bientôt, on va ouvrir la vaccination aux 12 ans et moins. Donc, en parallèle avec ce que l'on sait aujourd'hui, il y a une série de mesures qui ont présentement en cours, dont on n'est pas capable d'évaluer effectivement les effets qu'elles auront à court et à moyen terme. Donc, si on regarde la combinaison des mesures, puis on fait une lecture dans le temps, et là, de semaine en semaine, et qu'on voit que ce que l'on appréhendait comme étant une explosion du variant Delta, une surcharge de notre système de santé qui est déjà durement éprouvé, et qu'on se retrouvait pas dans cet univers-là, bien peut-être que la mesure de l'obligation vaccinale pourrait être reportée dans le temps.
OK. Une question qui me... Et vous allez la comprendre, là, qui varie des hôpitaux, là, puis... Quelqu'un qui est suspendu sans solde, là, donc qui perd son revenu, est-ce qu'il s'en va au chômage puis il y a des prestations?
Bien, ici, on peut penser que à partir du moment où il y a une mesure qui va être appliquée comme une suspension sans solde, cette mesure-là est contestée généralement pour les fins de l'assurance-emploi. Une démonstration de la contestation de la mesure va rendre éligible le ou la salariée visée.
OK, mais clairement...
Mais on comprend que les prestations ne seront pas à la hauteur du revenu général de la personne.
OK, mais...
enjeux associés, par exemple, à la couverture d'assurance et autres qui pourraient ici s'appliquer.
OK, mais ça veut dire, je me fais suspendre sans solde, je peux me mettre sur le chômage. Bon, faire moins d'argent, mais je peux me mettre sur le chômage.
Ça pourrait être une avenue. Là. Puis, naturellement, je ne prendrais pas une décision pour Ressources humaines Canada.
Mais non. OK, mais je me demandais. OK, merci, oui. Maître Gravel. Bonne journée.
Ça fait plaisir, M.
Au revoir, Maître Claude Gravel, avocat en droit du travail. On n'a pas vu celle-là. Est-ce qu'on a une date, comme disait l'autre, une date butoir sur roulette, peut-être, là, à ajuster selon les circonstances, parce que c'est quand même dans un peu plus d'un mois, et on comprend la pression qui est faite pour dire « allez vous faire vacciner », puis aller chercher vos deux doses, puis pour être dans le calendrier, respecter le calendrier, ben il faut le faire pratiquement dans les jours qui viennent.
L'essentiel de Paul Arcan.
Maintenant, ouverture à Paris de ce procès très attendu, le procès des attentats de novembre 2015. Fabrice de Pierrebourg assiste au procès, il est avec nous. Alors, ben Fabrice, tout ça s'est amorcé avec l'interrogatoire des accusés, dont le plus célèbre, celui qu'on attend depuis le début, Salah Abdeslam.
Oui, Paul, puis il y a 45 minutes, effectivement, le président a ouvert cette cour spéciale qui va durer 9 mois. Et Salah Abdeslam, on va dire l'accusé numéro un, seul survivant des commandos de novembre 2015, a fait un coup d'éclat. Lorsque le président lui a demandé de confirmer son identité, il a dit « Je tiens d'abord à affirmer qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah et que Mohamed est son messager, c'est la profession de foi musulmane ». Et il a continué après à défier la cour en disant « Je m'appelle Abdeslam Salah, donc je suis né le 15 septembre 89 ». Et quand le président lui a demandé quelle est sa profession, il a dit « Je n'ai plus de profession, je suis devenu combattant de l'État islamique ». Et après, il n'a plus jamais voulu répondre aux autres questions du président. Entre autres, quand celui-ci lui a demandé nom et prénom de ses parents, il a dit « Mes parents n'ont rien à voir là-dedans ». Et après, il s'est rassis dans le box. Il est habillé tout en noir, longue barbe. Il est arrivé le dernier ce matin. Il y a 11 accusés qui sont détenus dans le box, 3 qui sont libres, 6 qui sont réputés morts ou en fuite. Et il faut dire que tout ça se déroule dans un quartier qui est complètement fortifié, Paul, depuis ce matin, pour accéder à l'île de la Cité, qui est au centre de Paris, où a été construite cette salle d'audience spéciale. Il faut passer des multiples barrages. Même les journalistes, les partis civils, les avocats, on passe par plusieurs portiques de sécurité. Et autour, on dit qu'il y a plusieurs centaines de policiers et de gendarmes. Et toutes les rues sont barrées, vraiment, les circulations automobiles et piétonnes.
Bon, alors, c'est évidemment à haute sécurité. Et tu le disais hier, dans le système judiciaire français, les familles des victimes ont une place et peuvent s'exprimer.
Oui, puis c'est vraiment important. À peu près dans le planning, là, tout le mois d'octobre va leur être consacré. C'est-à-dire qu'ils ont environ ceux qui le désirent. Ils sont environ 1800. Donc, soit les rescapés du Stade de France, des terrasses, de restaurants et du Bataclan pourront venir s'exprimer. Ils auront 30 minutes chacun pour s'exprimer devant le président et les 8 autres magistrats, mais aussi devant les accusés. Il y en a beaucoup qui attendent ça avec impatience. Entre autres, Thierry, qui était un rescapé du Bataclan, qui ce matin a tenu à parler aux médias, on l'écoute.
Il y a des gens qui attendent le procès pour pouvoir passer à autre chose. Moi, j'ai de la chance, je suis passé à autre chose. Hein. J'ai fait zéro arrêt maladie, j'ai enchaîné. Une semaine après, j'étais à un concert, le samedi d'après, à un concert à la Boulevard. Donc j'ai voulu tout tomber. Lorsque vous tombez du cheval pour remonter, j'ai fait 3 concerts au Bataclan. Je suis retourné au Bataclan, c'était dur, mais j'ai voulu. Je ne veux pas que ça soit un sanctuaire, que ça vive, que ça rigole.
C'est très clair. Alors, quelles sont les étapes à venir, Fabrice?
Alors, aujourd'hui, c'est plutôt de la procédure. Aujourd'hui et demain, c'est l'appel, justement, des 1800 parties civiles. Donc, tous ces rescapés et ces familles qui ont souhaité s'exprimer tout au long du procès, d'autres ne veulent pas, et on les comprend. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec la semaine prochaine, on va passer en revue les événements. Ça va être plus des policiers antiterroristes, des Français et Belges. Et parmi les témoins attendus, il y a l'ancien président de la République, François Hollande, notamment. Et les accusés, eux, auront deux occasions de se prononcer au cours de l'automne et au cours du printemps suivant. Et ce procès va finir en mai 2022.
Et à la lumière de ce qui s'est passé ce matin, ce serait étonnant que M. Abdeslam sorte de sa ligne de conduite.
Oui, et puis c'est sûr que tout le monde attend ça, les familles attendent ça. Il y en a qui disaient dans les médias, dans les télévisions depuis plusieurs jours, qu'ils ont hâte de pouvoir le regarder dans les yeux et lui poser des questions. Peut-être que ça va l'inciter à parler. Mais c'est le seul qui, pour l'instant, a cette attitude de défiance. Les autres ont répondu vraiment aux questions du président sans aucun souci. Et on pense que la plupart vont s'exprimer au cours de ce long procès.
Merci, Fabrice. Bonne fin de journée. Fabrice de Pierrebourg qui est en direct de Paris.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.